Bernard Gérard, je voudrais vous présenter Stéphanie Arc. En fait, vous vous connaissez puisque il y a, alors, je crois que déjà 4 ou 5 ans, hein, que le première édition de ce livre que j'ai dans les mains, qui est de la réédition en fait, a été publiée. Ce livre-là, c'est un livre qui est publié aux éditions du Cavalier Bleu, dans cette collection qui a pour titre Idées reçues, et vous l'aviez consacré donc aux lesbiennes. Et vous étiez venu nous en parler donc il y a 5-6 ans. Là, c'est la réédition, hein, qui est corrigée bien sûr de ce livre, on en reparlera tout à l'heure. Dans tous les cas, il y a quelques jours, hein, c'était le 17 mai, on a assisté à la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Voilà, donc c'est l'occasion pour nous de revenir un petit peu sur cette journée. Mais en tous les cas, la première édition de ce livre vous a fait que vous avez pensé à quelque chose, vous avez pensé à un micro-trottoir qu'on va écouter ce matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Oui, en fait, j'avais travaillé donc un petit peu dans ma chambrette pendant 3 ans sur ce sujet des lesbiennes et des idées reçues sur les lesbiennes. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, c'était une forme de lesbophobie, enfin, pour certaines d'entre elles. Ce qui m'a amené ensuite à aller à l'association SOS Homophobie, donc une grande association de lutte française contre l'homophobie. Et là, eh bien, il fallait mener des petits projets et j'avais eu cette idée d'interviewer les gens dans la rue avec une caméra sur l'épaule en se promenant dans Paris pour savoir eh bien, s'ils pensaient vraiment toutes ces idées reçues que j'avais listées et analysées dans le livre, qui consistent par exemple à penser que les lesbiennes sont des camionneuses, ou bien que c'est la faute de leur mère ou de leur père si elles sont lesbiennes, ou bien qu'elles sont nées comme comme ça, etc., etc. Et j'en passe, puisqu'il y en a 16 qui sont recensés. Et figurez-vous que, donc, en se promenant dans les rues de Paris avec cette caméra, nous avons constaté effectivement que ces idées reçues étaient bien présentes dans les mentalités, qu'elles le soient au premier degré ou au second degré, ce qui était quand même plutôt une bonne surprise. Et voilà, il en manquait une, mais nous en parlerons plus tard.
Alors, première question que vous avez posée, qu'est-ce que cela évoque pour vous, hein, l'homophobie féminine, voilà.
Et
alors,
l'homosexualité
féminine, et voilà ce que répondent les gens que vous avez interrogés dans la rue.
L'homosexualité féminine, ce sont deux femmes qui s'aiment, tout simplement.
Alors pour moi, l'homosexualité féminine, c'est avant tout pas un style de vie, c'est pas non plus un comportement spécifique, c'est juste une attirance pour une personne qui se trouve être du même sexe que moi.
L'appétit sexuel pour une femme, une femme pour une femme.
C'est quand deux femmes s'aiment et leur amour, c'est la sexualité aussi.
Ça n'est pas plus important ni moins important qu'un choix sexuel totalement privé et un engagement émotionnel privé.
Je définis l'homosexualité féminine comme une préférence d'une femme pour les femmes.
Deux personnes de sexe féminin qui ont des relations particulières, puis prolongées, si possible.
Bon, alors les personnes sont plutôt alors cultivées, répondent plutôt pas mal à toutes ces questions, de manière tolérante.
Et ouverte, oui.
Oui, tout à fait.
Et ils parlent quand même d'attirance sexuelle, d'attraction.
Alors c'est intéressant effectivement parce que finalement, alors c'est une première entrée en matière, bien sûr, c'était un petit peu voilà l'introduction, on leur a demandé comment ils le définissaient, et finalement ce sont des définitions qui effectivement apparaissent pour le moins assez neutres, en tout cas
oui, plutôt pas négatives,
plutôt évoluées, plutôt construites. C'est dû, je pense, vous le verrez dans la suite, il y a des prises de position un petit peu plus un petit peu plus précises, mais c'est dû, je pense, au quartier où nous sommes allés, hein, voilà, nous sommes restés aussi dans le cœur de Paris, nous sommes
dans
allés.
Le Marais.
Non, pas que dans le Marais. Non, nous avons essayé de. Nous sommes rendus dans 7 lieux différents, je crois. Mais effectivement, le plus au sud étant le Jardin des Plantes et le plus au nord Strasbourg-Saint-Denis. Hein. Donc, on a essayé quand même de. On est resté longtemps à Châtelet pour avoir le plus grand nombre de personnes différentes, parce qu'il y a beaucoup de passages. Voilà. Mais effectivement, dans cette première entrée en matière, ce qu'on peut constater quand même, je trouve, c'est que ce qui est intéressant, c'est que certains parlent d'amour, et d'autres parlent d'abord de sexualité, et d'autres parlent simplement d'attirance. Et ça, c'est, je trouve, déjà, c'était intéressant parce que ils parlent pas uniquement de sexualité, quoi. Et il y a un autre truc que j'ai, enfin une autre chose que j'ai remarqué également, c'est que ce sont des définitions qui paraissent neutres, mais qui ne le sont pas tout de même, parce que par exemple il y a une femme qui met un point d'honneur à montrer que c'est pas seulement un style de vie. Donc ça, c'est un petit peu contre les remarques qu'on peut faire, contre le mode de vie gay, etc., ou le mode de vie homo, qui serait un mode de vie particulier, etc., alors qu'en fait, il y a autant de lesbiennes que de femmes. Enfin, on peut pas dire qu'il y a un mode de vie lesbien particulier, parce qu'il y a des femmes mariées, il y a des femmes qui font des aventures avec des femmes, il y a des femmes bisexuelles, il y a des femmes qui vivent en couple avec une femme, il y a des femmes qui ont des enfants avec une femme, etc. Donc il y a vraiment... Et puis elle dit que c'est pas un comportement sexuel spécifique, donc elle met un point d'honneur, elle dit que c'est juste une attirance pour une personne qui se trouve être du même sexe que moi. Donc c'est un petit peu finalement c'est presque comme si c'était occasionnel, enfin pas occasionnel, mais disons voilà.
Voilà, c'est une description de la bisexualité.
Voilà, ben bah, elle s'affirmait en tant que femme lesbienne, mais voilà, peut-être qu'elle voulait un petit peu édulcorer ou voilà, on sait pas très bien comment les gens se définissent eux-mêmes et comment définissent là, leur vie privée. Et il y a une chose intéressante aussi qu'on peut remarquer dans ces définitions, c'est le choix sexuel totalement privé. Ça, c'est quand même intéressant parce que voilà, c'est pas plus important, dit cette dame, ou moins important qu'un choix sexuel totalement privé. Ce qui peut se concevoir évidemment, puisque là on est dans le domaine de la vie privée, mais c'est souvent un argument quand même qui, alors là, sont d'un décryptage un petit peu pointu, mais c'est souvent un argument qui est utilisé pour dire aux homos, bon, vous pouvez être homo, c'est très bien, on vous accepte, mais c'est privé, donc vous manifestez pas votre affection sur la voie publique.
Hein. En soi, on peut s'interroger d'ailleurs, est-ce que le même micro-trottoir où on poserait des questions non pas sur les lesbiennes, mais sur les gays, sur les hommes, on obtiendrait autant de tolérance?
Alors, c'est effectivement une très bonne question parce que la plupart des gens mettent un point d'honneur à parler parfois des gays aussi et de comparer. Et justement, cette dame, donc c'est parfait parce que cette dame disait oui, quand même. Alors les lesbiennes, ça va, hein, mais les gays, alors vraiment, ils sont trop exubérants, ils se montrent trop. Et cette dame ensuite pointait le fait, nous le verrons, que les lesbiennes sont invisibles. Et elle disait, ah ben, c'est vrai, les lesbiennes, on les voit pas, et elle trouvait ça dommage. Alors, c'était un petit peu incohérent, mais c'est vrai que les gays, parfois, les hommes entre eux, mais ça veut pas dire que c'est plus facile d'être lesbienne, on y reviendra, parce qu'il y a une partie où on parle de ça, sur l'acceptation. Ce sont juste des types d'oppression différentes, enfin, des types de contrôle de cette sexualité qui sont différents, en fait.
Alors, avant de passer à la deuxième question, hein, de ce micro-trottoir, si on vous avait, parce que c'est pas facile de répondre comme ça dans la rue, un micro-trottoir, on pense à autre chose, et puis hop, une question un peu. Vous auriez répondu quoi, Stéphanie Arc, vous qui avez largement réfléchi à la question
sur
Bah oui, je vous posais, qu'est-ce que cela évoque pour vous, cette homosexualité féminine?
Qu'est-ce que j'aurais répondu, moi, personnellement? Alors, je pense que... je sais pas, c'est vraiment une bonne question. Je pense pas que j'aurais répondu par la sexualité d'abord. Voilà, en général, je dis que c'est une préférence, mais ça peut être... On peut le définir en termes d'orientation sexuelle. Aujourd'hui, c'est un peu le terme le plus utilisé. Voilà, ou simplement, c'est une femme qui préfère avoir des relations affectives, amoureuses et sexuelles avec des femmes, quoi. Voilà.
Alors, on va passer à la deuxième question qui a été posée donc aux personnes que vous avez rencontrées là dans le centre de Paris. Et la question des causes, hein, pourquoi est-ce que ces personnes sont devenues donc homosexuelles?
Vous voulez me faire dire que c'est génétique?
Non.
Ben on le devient peut-être.
Tu crois?
Ouais, je pense.
Non.
Moi, je pense. Je pense pas qu'on est lesbienne ou gay.
C'est peut-être dans le corps et dans le cœur et dans la tête. Pourquoi? Il y a peut-être pas de raison. C'est parce que c'est comme ça. C'est parce que j'ai un nez qui est un peu plus long ou les yeux qui sont bleus. J'en sais rien.
À l'origine, on n'est pas né ni lesbienne ni homosexuelle. On est né en principe pour être hétéro. Et puis il y a des circonstances, il y a plein de choses dans la vie qui font que...
Peut-être a-t-elle été abusée quand elle était jeune et finalement elle a un dégoût des hommes. Donc finalement elle se tourne vers les femmes.
Chaque personne a une part féminine et une part masculine.
Oui.
Et je pense que pour les homosexuels féminines, ben, y a le masculin l'emporte sur féminin.
Je pense que les femmes homosexuelles pensent que ce qu'elles vivent est bien, mais j'ai envie de leur dire qu'il y a quelque chose de mieux. C'est l'homme. Je pense que c'est l'homme. Je pense que c'est l'homme pour une raison simple. Moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu et je crois que Dieu a fait l'homme pour la femme et qu'il y a une complémentarité entre les deux. Et si les femmes sont en conflit avec les hommes, j'ai envie de dire qu'avec Dieu, c'est encore possible.
La mère est en majeure partie responsable. Moi, j'ai élevé seul mon fils, je lui achetais pas des poupées, je lui achetais des couteaux. Vous voyez la différence? Donc, s'il était devenu homosexuel, c'est pas parce que moi je l'aurais, favorisé cette tournure du futur.
Donc, l'absence de référent paternel ou maternel ne semble pas être une cause déclenchante, soi-disant, de l'homosexualité. Quant à ces théories assez fumeuses qui reposent sur l'éducation, je ne crois pas non plus.
Mais je pense que ça serait un peu réducteur de donner une cause. Puis ça voudrait dire aussi que s'il y a une cause, ben, c'est une sorte de maladie dont on pourrait guérir. Et je pense que ce n'est pas la bonne façon d'appréhender l'homosexualité.
Il n'y a aucune cause. Pourquoi on aime les choux, pourquoi on aime les carottes et pas ça. Non, il n'y a aucune cause.
Voilà, alors là alors parfois il y a beaucoup d'idées reçues qui sont passées, c'est-à-dire c'est la faute à la mère, faut foutre à l'éducation, l'agression éventuelle, hein, là qui aurait fait que on n'irait plus vers les hommes mais vers les femmes, ou qu'on n'a pas trouvé l'homme de sa vie, ce qui fait que faute de mieux,
faute on de se gris, retrouve on va
vers les mères. Donc voilà, ça c'est exactement les idées reçues de votre livre, mais il y a des choses quand même plus intéressantes, hein. Je sais pas, cette femme qui dit que chaque personne a une part féminine et masculine et que c'est la part masculine est plus développée, aussi que il n'y a pas de cause, hein, c'est intéressant.
Oui, effectivement. Alors là, on rentre dans le cœur du sujet, vous voyez, c'est assez vite. Alors bon, c'est vrai que c'est plus difficile d'identifier les personnes qui parlent puisqu'on ne voit pas la vidéo, mais on reconnaît quand même un petit peu les voix au fil du micro-trottoir. Alors c'était intéressant parce que là on a bien vu que les gens, ils s'interrogeaient devant la caméra. Vous entendez au début, elles sont deux copines et elles se disent, tu crois qu'on devient homo? Non. Et voilà. Et ça, c'était rigolo. Et en fait, c'est quand même, on sent quand même que les gens se sont un petit peu plus ou moins interrogés, hein, sur cette question-là. Ils ont été plutôt confrontés.
Oui, moi, ce qui me frappe en écoutant, c'est à l'inverse de cette idée, de cette notion d'idée reçue, c'est qu'il n'y a pas d'idée reçue. C'est que personne ne sait bien et qu'on hésite et on se dit, est-ce que c'est l'éducation? Peut-être, ça peut être l'éducation. Est-ce que c'est le génétique? En plus, on est totalement incompétents les uns les autres. Hein. Peut-être, est-ce que c'est le hasard de la vie qui fait qu'on rencontre quelqu'un dont on tombe amoureux? Et moi, ce qui me frappe assez, alors c'est peut-être votre panel, hein, le choix que vous avez
voilà,
fait.
Voilà, c'est ça.
Mais il y a quand même quelque chose comme de l'ordre de l'interrogation, comme si justement, il n'y avait pas dans notre société aujourd'hui, ou du moins dans la population que vous avez interviewée, de paroles fortes ou de savoir là-dessus. On ne sait pas. En fait,
voilà, il n'y a pas de parole unique, en fait. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'idée reçue, parce qu'en fait, le principe du micro-trottoir, c'était justement d'aller à la pêche aux idées reçues et de voir si je pouvais réunir toutes celles du livre, les 16. Alors, on en a réuni 15, parce qu'évidemment, dans les causes, il y avait c'est un choix féministe qui est une cause vraiment historiquement située, etc.
Ça, c'est vrai, ça a été vrai dans l'audio.
Ça a été vrai, voilà, mais c'était vraiment les mouvements du MLF, etc. Donc, les gens ne nous l'ont pas, ne l'ont pas formulé. Par contre, effectivement, on se rend compte que il n'y a pas une idée reçue sur la cause de l'homosexualité, qu'il y en a plein, et que parfois, les gens, ils peuvent avoir l'idée que c'est acquis. Et en même temps que c'est inné, ils vacillent. Ils peuvent dire on est comme ça, et puis en même temps, dans la phrase d'après, dire c'est la faute de la mère. Alors qu'évidemment, on peut
oui,
pas.
Et oui, moi j'interpréterais ça comme le signe d'un changement profond dans nos valeurs. C'est-à-dire qu'il y a probablement 30 ans, on aurait posé les mêmes questions, il y aurait eu une ou deux idées qui seraient revenues, le génétique ou l'éducation, qui seraient revenues de manière très forte. Et aujourd'hui, probablement, nous sommes en train de vaciller, nos valeurs vacillent sur ces sujets-là. Notre identité sexuelle vacillée, est-ce que nous sommes hétérosexuels, homosexuels? À part, en réalité, tous nous nous disons que nous pourrions devenir, si nous sommes hétérosexuels, homosexuels, et les homosexuels se disent qu'ils pourraient devenir hétérosexuels. Et ce micro-trottoir, encore une fois, ça n'a rien de scientifique, mais pourrait très bien indiquer cette espèce d'hésitation sur notre identité sexuelle, pourrait la manifester.
Surtout que voilà, il est équivalent il y a 30 ans de ce micro-trottoir, c'est ce qui m'a donné l'idée, en 1971 avait été filmé dans les rues de Paris, et ce qu'on retrouvait plutôt c'était l'idée de la pathologie en fait, voilà, qui a du coup qui a vraiment, disparu. Évidemment depuis que l'OMS a supprimé l'homosexualité de la liste des maladies mentales, qui date de 91, mais, et 74 pour les États-Unis, hein, donc c'est récent. Mais ça a complètement disparu. Alors évidemment, on ne peut pas faire le tour de toutes les causes ici et répondre à toutes ces personnes comme je l'ai fait dans le livre, puisque toutes ces questions, je les ai analysées dans le bouquin. Mais pour l'agression sexuelle, par exemple, sur les enquêtes sur les violences faites aux femmes, qui s'appelle l'ENVEF, ça a été prouvé que non, qu'il n'y avait pas une prévalence, que chez les femmes lesbiennes, elles n'avaient pas été agressées plus fréquemment dans leur enfance, etc. Donc ça, c'est pas vrai. Sur la génétique, pour faire très très vite, je ne sais pas si on a un petit peu de temps. Mais sur la génétique, pour faire très vite, on n'a rien trouvé pour l'instant, hein, sur l'aspect biologique, sur les causes biologiques de l'homosexualité. Alors effectivement, il y a des chercheurs qui continuent aux États-Unis à travailler là-dessus, plutôt aux États-Unis qu'ailleurs, du reste.
Et plutôt dans des milieux liés. Les États-Unis, c'est très particulier.
Voilà, c'est très particulier la recherche. Et c'est souvent d'ailleurs, ça peut être le fait d'homosexuels eux-mêmes, de chercheurs homosexuels, qui essayent de montrer que l'homosexualité, puisqu'elle est biologique, alors on ne peut pas faire changer les gens. Et du coup, il faut accepter les homos tels qu'ils sont. Bon, alors c'est un bon principe de départ, mais après, on peut s'interroger sur les tenants et les enjeux, surtout parce que qui dit biologie dit qu'on peut éventuellement faire le tri entre les bons grains et les mauvais grains, si je puis dire. Et voilà, donc effectivement, ils sont partis sur des pistes plutôt hormonales à l'heure actuelle et hormonales prénatales, c'est-à-dire pour l'instant, c'est les pistes qui sont les plus explorées, c'est-à-dire dans le bain d'hormones prénatales durant la grossesse, les lesbiennes, pour parler d'elles, ont été masculinisées parce qu'il y avait trop d'hormones mâles, enfin, testostérone. Dans le ventre de la mère, et du coup ça a masculinisé alors soi-disant les structures cérébrales qui sont responsables de l'orientation sexuelle, sauf que pour l'instant on les a jamais trouvées ces structures cérébrales, donc pour l'instant rien de nouveau sous le soleil. Voilà, sur la part féminine et masculine, comme vous le disiez, ça sont des théories qui sont vieilles, comme Sappho,
mais comme Platon,
voilà, parce qu'effectivement et puis ça a été repris à la fin du 19e par les médecins allemands justement, qui ont créé un peu le personnage de l'homosexuel en disant c'est pas que des actes mais c'est une identité, et justement ils disaient qu'en fait il y avait un troisième sexe. Et que les homos, que les lesbiennes en l'occurrence, elles étaient plus proches des hommes que des femmes. Donc biologiquement, elles avaient tout un tas de choses de l'homme. Et c'est pour ça qu'elles désiraient des femmes, parce que pour désirer une femme, il faut être un homme, selon la binarité de la société actuelle. Voilà, et puis bon, évidemment, je ne commenterai pas l'idée qu'elles ne savent pas que les hommes, c'est mieux, parce que ça se commente
un peu imbécile.
De soi-même. Et puis la faute des parents, mais c'est aussi une idée reçue qui était très présente dans le bouquin, parce que souvent les parents, quand même, la première réaction des parents face à un coming out, c'est ça. C'est « mais qu'est-ce qu'on a fait ? C'est de notre faute ?» Comme si, évidemment, l'homosexualité était forcément...
Oui, mais enfin, ça, c'est pas lié à l'homosexualité. Dès que vous avez un enfant qui fait quelque chose qui n'est pas dans la norme, vous vous dites « c'est de ma faute, c'est notre société qui a tendance à pénaliser... » Enfin, oui, à rendre les parents responsables d'absolument tout en oubliant que les enfants ont quand même leur part d'autonomie, liberté.
Et surtout la mère, en général, on culpabilise beaucoup la mère, qui est encore plus responsable, qui est encore responsable en grande partie de l'éducation.
Autre question que vous avez posée donc à ces personnes dans la rue, vous leur avez posé la question de savoir quelle était la visibilité de l'homosexualité féminine dans les médias, et voilà comment elles sont représentées. Est-ce que qu'est-ce que ça évoque pour eux? On écoute leur réaction.
L'homosexualité masculine est beaucoup plus présente, alors souvent de manière très caricaturale, mais on la voit aussi d'une manière un peu plus fine. Et par contre, les filles, on les voit quasiment jamais.
Moi, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. Hein. Si c'est pas à la Gay Pride, et encore, à la Gay Pride, si on ne parle pas des femmes, on parle plus des hommes, parce que, allez donc savoir pourquoi. C'est toujours eux qui sont là.
Y compris comme cible publicitaire, on concerne toujours les hommes.
On en parle plus qu'avant, parce que ça a toujours existé, mais...
On en parle beaucoup plus librement qu'avant.
Librement qu'avant,
on en parle de plus en plus, pour une seule et bonne raison, c'est que ça commence à faire vendre. Voilà, donc on en voit de plus en plus, de sitcom à la télé. Pas encore de pub réellement, mais surtout à la télé. Donc ça va venir à la pub parce que, comme l'homosexualité masculine, ça fait vendre. Donc on y viendra de plus en plus. Tant mieux, cela dit, c'est pas une critique.
C'est un sujet qui est de plus en plus abordé à la télé.
C'est de moins en moins tabou, avec The BL World, même dans Sex and the City ou tout ça. Des exemples, c'est pas mal.
La tradition pour représenter les lesbiennes, c'est d'en faire des femmes masculines.
C'était le vieux mot d'inverti.
La femme au masque, la brute, la camionneuse. Enfin bon, c'est vraiment c'est le gros cliché qui est véhiculé. Alors qu'il suffit de sortir un peu dans des soirées lesbiennes pour voir que c'est pas ça. Là, on voit des jeunes filles qui sont ultra féminines et justement, qu'on ne différencierait pas dans une foule.
On se représente la lesbienne comme une femme habillée comme un homme ou presque vulgaire ou pas féminine, justement. Mais il y a eu quelques reportages sur des lesbiennes très féminines, justement, aux États-Unis notamment, mais je pense qu'il y a des points de vue assez péjoratifs sur les lesbiennes et leur apparence, et même sur leur psychologie, leur façon d'être.
Voilà, alors là, on a l'impression que les idées reçues sont bien perçues comme étant des idées reçues dans la représentation des femmes lesbiennes.
Oui, tout à fait. Sur la masculinité, effectivement, il est dénoncé en tant que tel, ce cliché. Donc ça, c'était vraiment plutôt rassurant, parce que depuis Gazon Maudit, on a quand même bien perçu que tout ça, c'était un petit peu erroné quand même, que c'était un peu la face émergée.
Gazon Maudit, c'est en 95, voilà, on voit Josiane Balasco plutôt en camionneur assez vulgaire. Ça fait partie des reçus, justement.
Oui, il y a aussi des lesbiennes qui sont comme Josiane Balasco. Oui,
il y en a, mais en fait, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, ce qui fait que quand on en voit deux, on se dit toutes les lesbiennes sont comme ça, alors qu'en fait, on ne soupçonne pas souvent la plupart. On est tous présumés hétérosexuels en général.
Oui, mais on ne soupçonne pas que deux femmes ensemble, d'ailleurs, c'est deux hommes ensemble, on se pose, même quand c'est le père et le fils, on se pose la question. Deux femmes ensemble, on ne se pose absolument pas la question.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est une question de culture aussi, parce que l'homosexualité féminine, alors c'est assez complexe, mais l'homosexualité féminine n'étant pas tellement prise au sérieux, on a du mal à considérer que ça peut être une vraie sexualité, une vraie relation affective, etc. Donc on pense qu'au mieux, ce sont deux copines qui vont faire du shopping.
C'est-à-dire qu'en fait, elle était probablement dans l'espace privé beaucoup plus que l'homosexualité masculine. Quand vous lisez, par exemple, Aristote, il y a des tas de passages dans lesquels il parle de l'homosexualité dans la Grèce antique au 3e, 4e siècle. Il parle, par exemple, des Celtes, il parle de toutes ces choses-là. Ça se passe uniquement entre garçons. Les femmes n'existent pas dans le monde, pas plus que les esclaves d'ailleurs, n'existent dans le monde d'Aristote, enfin, où elles sont dans l'espace domestique dans lequel, évidemment, on ne sait absolument pas ce qui peut se produire. Et du coup, on ne la voit pas.
Bah d'ailleurs, c'est le premier constat, finalement, qui arrive dans la question qu'on pose. C'est le premier constat, c'est qu'il y a une plus grande visibilité des gays. Les gays, on les voit plus, etc. Ce qui fait qu'en fait, un certain nombre de personnes peuvent penser qu'il y a plus de gays que de lesbiennes. C'est une des idées reçues que j'ai traitées dans le livre. Alors qu'en fait, ça tient beaucoup plus à une question de visibilité et d'occupation de l'espace public, effectivement, ce que vous dites. Et de l'espace médiatique aussi, parce que c'est pas seulement la rue. Donc, on peut noter une invisibilisation ou une invisibilité, tout simplement, des relations entre femmes qui ont longtemps été
Ce qui est vrai chez nous, ce qui est peut-être un peu moins vrai aux États-Unis, où on a toute une culture lesbienne, homosexuelle, féminine qui s'est développée avec des séries télévisées. Mmh. Je ne sais pas si vous connaissez une série qui s'appelle The L World, oui, L Girl Lesbienne, qu'on peut trouver sur Internet un petit peu en piratant, mais qui est tout à fait remarquable et qui est, pour qui s'intéresse à ces questions-là, absolument passionnante parce qu'on y découvre les problèmes que rencontrent ces couples de femmes lorsque, par exemple, elles veulent avoir un enfant. Il faut quand même un homme, enfin, ou quelque chose du masculin dans cette affaire, ce qui ne va pas de soi et où on voit comment elles hésitent, pour certaines, entre... elles peuvent tomber amoureuses d'un homme. Donc, c'est un peu compliqué.
Effectivement, la question de la visibilité, d'ailleurs, c'est noté, la visibilité s'accroît, heureusement, et on en voit de plus en plus, et dans les médias, etc. Il y a des romans qui paraissent, et on peut citer juste simplement même des séries grand public. Effectivement, The L Word, ça a été fondamental, et ça l'est pour une génération, de toute une génération de lesbiennes. Mais même dans Desperate Housewives, je ne sais pas si vous connaissez, soaps comme Plus belle la vie, il y a des personnages lesbiens, il y a une série, Sex and the City, évidemment, The Wire, qui est une série récente. Enfin, aux États-Unis, il y a un certain nombre de. Puis en Angleterre aussi, il y avait Sugar Rush, qui est une série que j'aime beaucoup sur les adolescentes. Même dans Queer as Folk, évidemment, il y avait. Donc, enfin, il y a quand même de plus en plus maintenant, et puis au cinéma aussi. Donc, ça, c'est bien pour le.
Voilà, on est ensemble, Stéphanie Arc. On parle, entre autres, de ce livre qui est publié aux éditions du Cavalier Bleu dans la collection Idées reçues, qui donc traite de ces idées reçues qu'on peut avoir sur l'homosexualité féminine. Et suite à ce livre, donc, vous êtes allé poser des questions dans la rue. Et c'est ce micro-trottoir que l'on écoute ce matin. Et on réagit donc à ces questions que vous avez posées aussi. Donc on vous retrouve, Stéphanie Arc, juste après les informations de 9h. Elles vous sont proposées aujourd'hui par Arnaud Malas. Vous écoutez à l'YFM 93.1. Dans quelques secondes, il sera tout juste 9h. Vous écoutez à l'YFM 93.1. Eh bien, il est 9h, donc on est avec vous, monsieur Arnaud Malassé, pour les infos.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce Flash Info. Nous sommes le mardi 25 mai et on commence avec l'actualité internationale. 492 millions de litres de pétrole déversés depuis l'explosion d'une plateforme pétrolière le 20 avril dernier. C'est le triste chiffre communiqué hier par le groupe BP. Depuis un mois donc, le pétrole coule à flot au large des côtes mexicaines. Pourtant, le groupe pétrolier britannique a tenté plusieurs fois de stopper cette fuite, mais toujours rien. Depuis un peu plus d'une semaine, un système de pompage extrait entre 250 et 400 000 litres par jour. Mais c'est encore beaucoup trop peu, car on rappelle que les scientifiques parlent de quelques 900 000 voire 1 million de litres par jour. 4 morts hier en Jamaïque, les policiers et les soldats ont tenté une entrée dans le quartier où réside un gros baron de la drogue qui doit être extradé aux États-Unis. Le gouvernement a décrété dimanche l'état d'urgence dans 2 quartiers de la capitale où 5 postes de police avaient été visés par des tirs ou incendiés. Protégé par plusieurs membres de son gang, le trafiquant de drogue Christopher Coke est également recherché pour plusieurs assassinats. En France maintenant, l'enquête sur la fusillade de jeudi dernier entre un commando et les forces de l'ordre à Villiers-sur-Marne avance. Le premier suspect, Malek Kider, a été mis en examen hier soir. S'il reconnaît avoir fait partie du commando, il nie en revanche avoir tiré. Également sur la piste de 2 autres suspects identifiés grâce à différentes empreintes digitales, les enquêteurs espèrent bien retrouver les auteurs des coups de feu qui ont coûté la vie à une jeune policière de 26 ans. Et on clôt ce Flash Info avec une bonne nouvelle. Après avoir perturbé la vie de plusieurs millions d'Européens, il est enfin en train de s'endormir. Je veux bien évidemment parler du volcan islandais. Selon les scientifiques, il ne produit plus de magma et laisse désormais s'échapper une fumée 50 fois moins importante que celle qui avait, on le rappelle, perturbé l'espace aérien européen pendant près de 2 mois. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez maintenant votre émission Voix contre oreille, toujours présentée par Florence Maton.
I'm ready for you.
is lashing over to ignore them would be critical.
Donc c'était Four Keeps de Gossip, qui est un groupe américain donc, qui date de la fin des années 90 et qui a eu vraiment une pêche incroyable que je recommande. La chanteuse, c'est Beth Ditto, qui est donc une femme qui a assez vite, tout de suite, déclaré son homosexualité ouvertement dans les médias, qui fait les couvertures des magazines et qui milite aussi pour les femmes qui ont des rondeurs, parce qu'elle est, voilà, elle est très, très ronde. Et donc vraiment, c'est une femme militante qui est très généreuse dans sa musique et dans ses concerts. Il faut vraiment y aller à ses concerts. Elle, ce soir, aux Zénith. Le groupe est ce soir au Zénith et c'est un moment de pêche et de joie et de dynamisme incroyable. Enfin, je recommande vraiment très, très, très chaudement.
Voilà, Stéphanie Arc, on est ensemble. On parle entre autres de votre livre. Il est publié aux éditions du Cavalier Bleu. Il a pour titre Les Lesbiennes. Voilà, alors on micro-trottoir ce matin, puisque suite au livre, donc vous avez voulu constater vous-même, voir si toutes les idées reçues étaient ce que chacun pensait. Donc vous avez interrogé au hasard, comme ça, des personnes et vous leur avez posé certaines questions, entre autres, est-ce que vous trouvez que l'homosexualité féminine est bien acceptée dans la société? Voilà ce que les personnes répondent.
C'est pas toujours facile de se faire accepter en tant que lesbienne dans notre société.
Dans une ville comme Paris ou dans les grandes villes, il y a une véritable avancée. Mais en ruralité, je ne le crois pas. Ils sont montrés du doigt. Et sinon, parfois agressés.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a quand même une culture judéo-chrétienne. Qui fait que beaucoup de personnes sont enracinées dans certaines valeurs et qui n'acceptent pas qu'on brise ces valeurs-là.
On s'est habitué à avoir des couples gays, moins à avoir des couples de lesbiennes.
C'est davantage accepté pour un homme que pour une femme.
Oui, mais pour une femme, c'est plus discret, finalement.
Voir deux femmes se tenir la main dans la rue, ça choque pas forcément. On peut se dire que ce sont des amis. Et des fois, on peut voir des amis femmes se tenir la main. Et par contre, voir deux hommes se tenir la main dans la rue, tout de suite, on sait que c'est pas des simples amis. On sait que ce sont des homosexuels. On sait que ça va plus loin.
L'homosexualité féminine est acceptée dans la mesure où elle ne se voit quasiment pas. Visuellement, au niveau du comportement. Donc, c'est difficile de dire si elle est vraiment acceptée.
On n'en parle pas, donc accepter... C'est difficile d'accepter quelque chose dont on ne parle pas, en fait.
Quand les mecs en parlent, c'est plutôt un truc, un fantasme à eux. Voilà. Et bon, les filles, on ne parle pas beaucoup non plus, j'ai l'impression.
vu qu'elle est très acceptée et très appréciée par les hommes en général, ce genre de sexualité, elle est, bon, c'est beaucoup accepté, je pense.
Je pense que ça dépend des générations,
ouais,
déjà.
Ça dépend encore des générations, à mon avis. Notre génération, on est habitués parce qu'on le voit, on en parle, c'est pas choquant pour nous, mais autant pour nos grands-parents. Là, je suis pas sûre. Enfin, moi, je dirais à mes grands-parents que je suis homosexuelle, je suis pas sûre qu'ils le prendraient bien.
De mon temps, il y a un milliard d'années, c'était pas comme ça. Les homosexuelles femmes rasaient les murs, et encore, de l'autre côté.
Les nanas peuvent être homosexuelles quand elles sont en pension ou en colonie, il faut qu'on essaye. Et après, elles deviennent maman.
Les enfants,
ouais.
Maman.
L'image de la femme, c'est encore trop, c'est l'épouse, la mère, la... C'est encore ça, donc on n'accepte pas qu'elle ait un autre rôle que celui-là.
D'ailleurs, le mot accepter n'est pas normal. Je pense que accepter, on doit regarder l'homosexualité comme un oiseau de couleur différente d'un autre, et puis c'est tout, il n'y a pas, de différence.
Voilà, Stéphanie. On voit bien que les personnes prennent la mesure du fait que ce n'est pas tellement évident, hein, il y a de la difficulté et qu'il y a une certaine homophobie qui règne encore aujourd'hui.
Oui, je trouve que cette partie est vraiment... ils ont vraiment fait le tour de ces problèmes d'acceptation liés à la visibilité aussi. C'est-à-dire qu'il y a une idée reçue que j'avais traitée, qui est-ce que c'est plus facile d'être lesbienne que d'être gay. Et là, on se rend bien compte que les gens comprennent que c'est pas parce que on n'en parle pas, et donc on peut difficilement savoir si c'est vraiment accepté, parce que tant que ça reste dans l'ombre, ça gêne personne. Mais à partir du moment où ça sort du placard, entre guillemets, là ça commence à poser des problèmes. Et tant qu'on pense que c'est un fantasme masculin, comme l'a dit une des personnes interviewées, on se dit c'est pas grave, c'est juste une sexualité qui sert à frioler, mais qui n'est pas une vraie sexualité, pas indépendante des hommes, et donc c'est toute la pornographie par exemple hétérosexuelle. Mais à partir du moment où deux femmes se revendiquent indépendantes, libres, qu'elles n'ont pas besoin d'un homme dans leur vie, etc., là ça devient un peu plus compliqué, un peu plus subversif, sauf si, voilà, par exemple, si c'est une amourette, si c'est en pension, si en colonie, ça va très bien, mais à partir du moment, et ça c'est lié, et ça pour conclure, ça c'est lié au fait que, comme le dit très bien une personne dont je reprends les arguments, c'est aussi l'image de la femme, c'est le rôle de la femme, donc on est, on est encore, c'est encore, bien sûr, c'est très très lié, évidemment, à la société, à la domination masculine et à la société encore telle qu'est la situation, la condition des femmes et la situation des femmes dans la société.
Bernard,
je suis quand même très très surpris par la maturité de toutes les personnes que vous avez interviewées, qui étaient prises probablement par surprise.
Complètement.
Et qui développent un discours qui est assez, alors d'abord tolérant, plutôt intelligent.
Ouais, complètement.
On n'entend pas de grosses bêtises. On n'entend pas de grosses bêtises. Et qui surprend un peu, parce qu'effectivement, il y a une jeune fille qui dit « on en parle entre nous ». Mes grands-parents, bon, je suis pas sûr qu'on en parle tant que ça entre soi quand même de l'homosexualité, sauf à avoir un projet personnel
ou être
confronté, mais autrement on n'en parle pas beaucoup, et dans les médias on n'en parle quasiment pas, et cependant malgré tout il y a cette espèce de au-delà de la tolérance, une espèce de maturité où on a fait un petit peu le tour effectivement des problèmes, comme si c'était effectivement déjà le changement est fait, c'est déjà dans notre monde.
Oui, c'est surprenant. Et puis, c'est vrai qu'après, c'est lié au montage aussi, je pense. C'est-à-dire qu'on a, ça crée presque l'idée d'un discours cohérent et comme d'une seule personne. Donc ça, c'était assez intéressant à faire parce que c'était la première fois que je faisais du montage et j'ai vraiment apprécié. Mais on n'a pas assez sans trucage. Hein. Tout est réalisé sans trucage.
Non, mais on sent pas de grosses bêtises.
Voilà, non,
même
non,
celui
vrai
qui
que,
fait allusion à la sexualité,
au fantasme, c'est ça.
Oui, au fantasme homosexuel, féminin pour exciter les hommes. Bon, il le fait pratiquement tongue in cheek, en plaisantant.
Ouais,
on sent qu'il dit ça presque en souriant. Il ne se prend pas très au sérieux quand il dit
non,
ça.
Non, c'est sûr, ouais, c'est sûr. En plus, il se frottait un petit peu les mains. On ne voit pas sur la vidéo, mais c'était drôle parce que du coup, c'est vraiment drôle. C'est presque burlesque, en fait, cette scène. Mais, voilà.
Autre question que vous avez posée, vous avez demandé si deux femmes pouvaient se marier aujourd'hui.
Qui se mettent ensemble, c'est tout à fait normal. Mais jusqu'à un mariage, c'est un peu consacré... comment dirais-je l'essence même de la vie qui naît par l'union de deux êtres, par la réunion, puisque, voilà.
Mais tant qu'ils seront minoritaires, ils subissent le sort de toutes les minorités, c'est-à-dire l'oppression des bien-pensants.
Bah, nous, on se marie bien, on divorce même, alors pourquoi ils n'auraient pas le droit de le faire aussi?
Moi, je suis pour. Allez-y, il n'y a aucune raison. Un mec, une femme, deux nanas, deux mecs, noir, blanc, jaune, vert, on s'en fout. Vous aimez, mariez-vous, invitez-moi, c'est tout ce que je demande.
Je vois pas très bien ce que ça apporte de plus, un mariage.
Moi, je trouve ça beau. Déjà, rien que nous demandons en mariage, c'est beau. Donc, que ce soit de sexe ou de sexe, pas de problème, quoi. Dès l'instant qu'on se dit oui et qu'on s'aime pour la vie et qu'on se fait pas de mal, tout simplement.
Je trouve que c'est un peu un manque d'imagination, étant moi-même pas mariée, parce que c'est pas un comportement qui est très, très conventionnel, l'homosexualité, et le mariage c'est plutôt une institution conventionnelle.
Ce qu'on a à faire, que les homosexuels se marient ou pas, moi je suis hétérosexuel et je ne me marie pas, donc je ne sais pas en quoi c'est quelque chose qui me semble important. Mais il y a le pacte qui donne les mêmes droits qu'au niveau des impôts et tout ça.
Sur le plan juridique, sur le plan financier, ils n'ont pas les mêmes droits s'ils ne sont que pacsés. Et donc l'accès au mariage me semble être une revendication absolument fondée.
Le mariage, pour moi, ça ne veut pas dire je t'aime plus qu'on se marie. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour la protection des deux partenaires. Et surtout, si après il y a des enfants, c'est vraiment nécessaire.
Voilà. Alors, bien sûr, ça nous fait parler pendant le reportage se diffuse. En tous les cas, la France est un des derniers pays à ne pas autoriser le...
En Europe.
En Europe, bien sûr. Oui, évidemment, c'est bien de le préciser. À ne pas autoriser le mariage entre partenaires du même sexe. Alors, on pourrait évoquer... Il y a cette dame-là qui semble assez âgée et qui parle du fait que, pour une personne assez croyante, c'est quand même le mariage d'une union sacrée. Alors, moi, j'ai envie de parler du pape qui, au Portugal, donc pays très catholique, qui vient d'autoriser justement le mariage entre personnes homosexuelles, a dit cette phrase que c'est mariage entre personnes homosexuelles est un grand péril pour l'humanité, donc une menace réelle pour la famille traditionnelle.
Oui, voilà, il a dit que c'était le mariage gay était insidieux et dangereux. Hein, donc, le Portugal est sur le point d'autoriser le mariage gay. Alors, comme vous le disiez, la France quand même est un peu à la traîne de l'Europe dans ce domaine, puisqu'aux Pays-Bas, Belgique, Espagne, Norvège, Suède, Portugal, c'est déjà possible. Pour l'adoption, c'est un autre sujet dont on parlera.
En Italie, de gros débats. Hein,
en Italie, il y a de gros débats.
Même le Pax qui est l'équivalent.
Il y a le Pax, mais comme le dit donc une des personnes interviewées, ça donne quand même pas les mêmes droits, notamment sur la filiation pour l'adoption, ça c'est vraiment important. Et puis sur les droits de succession aussi, l'héritage, etc. Il faut vraiment statuer. Il y a des progrès, mais voilà, en tant que homo, il faut quand même associer ça à des testaments, rédigés, etc. Il y a quand même
j'ai envie d'insister sur le fait qu'il y a des pays dans le monde où l'homosexualité est condamnée à mort. Hein, il y en a, je crois, une dizaine, 7-10.
Oui, il y a même eu dans la presse hier ou avant-hier une affaire, j'ai vu ça, je ne me souviens plus tout à fait, mais où quelqu'un est condamné à mort pour homosexualité. Oui. C'est pas en Iran,
L'Iran est un des cinq pays où l'homosexualité est condamnée à mort, avec la Mauritanie, l'Arabie Saoudite, le Soudan et le Yémen. Et puis il y a certaines parties du Nigeria et de la Somalie qui condamnent à mort. Alors c'est pendaison ou bien décapitation, je crois, en Arabie Saoudite. Les femmes sont parfois oubliés, un peu passés sous silence, encore une fois, l'homosexualité féminine des codes, du code pénal. Souvent, c'est la charia aussi, donc évidemment, dans ces pays-là qui s'applique. Mais les femmes sont condamnées, par exemple en Iran, elles sont condamnées à la flagellation, et si c'est réitéré 4 fois, elles sont aussi condamnées à la peine de mort. Donc effectivement, c'est encore... Et puis c'est dans 80 pays, c'est pénalisé.
80 pays qui pénalisent justement l'homosexualité. Ouais. Voilà, alors il y a eu le mariage de Bègle, je crois que suite à ça, il y a un recueil de lettres d'insultes. Oui. Qui a été publié.
Alors effectivement,
que Noël Mamère aurait reçu.
C'est Noël Mamère. Donc quand il a fait ce mariage, donc on sait très bien que ça a suscité des propos haineux, absolument incroyables. L'opinion publique désormais, selon il y a un sondage qui a été fait en 2006. Donc il y a 6 Français sur 10 qui se disaient favorables au mariage homosexuel, 61%. Et donc ça a quand même beaucoup évolué. C'était 4 points de plus qu'en 2004 et 13 points de plus qu'en 2000. Donc je pense que les mentalités maintenant, et on le voit dans le micro trottoir là. Bon, évidemment c'est pas représentatif. Hein, attention, parce que le micro-trottoir, ça ne veut pas dire que maintenant l'homosexualité féminine est acceptée allègrement, etc. Hein, c'est vraiment ponctuel dans certains quartiers, et puis on est peut-être tombé sur des gens plutôt sympathiques.
Oui, entre ce qu'ils disent. Il y a l'effet micro-trottoir aussi.
Oui, il y a l'effet micro-trottoir, il y a l'effet caméra. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent vraiment, si leur fille est elle-même homosexuelle, là, c'est quand même autre chose. Enfin, quant à l'opinion publique pour le mariage, je pense que mariage civil, en tout cas, parce que mariage religieux, c'est notre histoire, hein, comme l'a dit la dame, je pense que l'opinion est prête. À mon avis, ça se fera.
Je vais vous poser une question. Nous parlions pendant justement le micro-trottoir. Bon, il y a le mariage, mais il y a aussi le Pax. Mm-hmm. Et le Pax, c'est maintenant une histoire relativement ancienne, comme étant une dizaine d'années maintenant. Le
oui,
Pax.
C'est 99, je crois. Bon. Oui.
Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait combien de femmes, couples homosexuels féminins, couples homosexuels masculins, couples qui ne sont pas homosexuels, hétérosexuels?
Alors effectivement, il y a des statistiques maintenant qui sont consultables sur le sexe des personnes qui se paxent. Ce que je sais, c'est que maintenant, en tout cas, je ne sais pas combien de lesbiennes et combien de femmes qui se paxent entre elles plutôt et d'hommes qui se paxent entre eux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été maintenant il y a plus d'hétéros qui utilisent le pax qui recourent au pax que d'homo. Et donc c'est pour ça quand on dit que c'est le mariage gay, c'est absurde,
c'est une forme de fiançailles
Voilà, c'est ça. Et puis, ça offre d'autres avantages et d'autres... Enfin, ça a aussi d'autres inconvénients. C'est un contrat qui est un peu incomplet par rapport au mariage. Il y a certains droits qui sont pas présents. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être une alternative, une bonne option.
Oui, mais au-delà de ça, le fait qu'on puisse aujourd'hui faire des statistiques va nous permettre de mieux connaître
les comportements.
Vous nous disiez tout à l'heure, pendant que qu'on diffusait le micro-trottoir, qu'il semble que les couples lesbiens...
Oui.
Se séparent plus rapidement que les couples hétérosexuels, qui eux-mêmes se séparent plus rapidement que les couples gays.
C'est quelque chose d'assez différent
de ce qu'on imagine spontanément, puisqu'on se dit, bon, les gays ont des vies sexuelles, plusieurs partenaires, enfin, une vie sexuelle assez chaude, et qui donc peut favoriser les séparations. Et apparemment, d'après ce que vous dites...
Apparemment, oui, c'est sûr. Apparemment, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont les couples de femmes qui se séparent en moyenne au bout de 3 ans, je crois. Donc, ce sont les chiffres consultables sur l'INED, je pense. Mais il y avait eu une conférence de presse il y a quelques années déjà sur ce sujet, et ça va vraiment à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle les lesbiennes sont fleurs bleues, elles se mettent ensemble au bout de 3 jours, parce qu'il y a des blagues qui circulent aux États-Unis notamment. C'est qu'est-ce qu'une lesbienne apporte qu'est-ce qu'un gay apporte au deuxième rendez-vous, quel deuxième rendez-vous, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'une lesbienne apporte au deuxième rendez-vous, son camion de déménagement. Et donc voilà, et en fait c'est l'idée que voilà, les femmes restent ensemble pendant 10 ans, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas, visiblement. En tout cas, selon les statistiques du Pax, il y a une certaine, peut-être, fragilité du couple lesbien. Hein. Bon, ça, c'est
intéressant de savoir pourquoi. Hein.
Bah, c'est-à-dire que, alors moi, je ne vais pas faire de psychologie de comptoir, mais il est clair que la situation, que l'homophobie, que la désapprobation, en tout cas, puisqu'on ne peut pas mettre homophobie à toutes les sauces, mais que la désapprobation qui entoure le couple, enfin, il n'y a pas de ciment social, vous voyez, autour du couple homo. C'est un peu seul contre tous, quand même, hein, il faut le dire. Et si on a la chance d'avoir des parents ouverts et que les beaux-parents sont ouverts aussi, alors là, c'est très très bien, on part avec une bonne base. Mais c'est vraiment dans le meilleur des cas, parce que souvent, il faut que les amis acceptent, il faut que la famille accepte, il faut qu'ils apprécient la conjointe éventuelle. Et puis bon, ça c'est pareil pour tous les couples. Et donc ça veut dire qu'il faut vraiment déjà être solide soi-même, avoir confiance en soi. Et puis voilà. Et puis...
Alors, vous savez, il y a peut-être une interprétation qui nous vient de Tocqueville. Alors, parlez pas des homosexuels, Tocqueville. Mais Tocqueville s'interrogeait, se demandait comment se fait-il, au XIXe siècle, que ce soit les couples qui se marient par amour qui divorcent le plus vite. XIXe siècle. Et alors son explication était assez simple. Les couples qui, au XIXe siècle, se marient par amour sont des couples dont les deux membres sont... extrêmement solide, ont un caractère très fort. Comme ils ont un caractère très fort, ils réussissent à imposer leur couple et leur choix à leur famille, à leur environnement. Mais comme ils ont un caractère très fort, ils ont du mal à passer des compromis avec leur partenaire. Et c'est peut-être, alors ça fonctionne peut-être pour les lesbiennes. Malheureusement, ça fonctionne pas pour les gays. Donc,
ah oui, j'avais plus vu en termes de manque de confiance en soi, mais effectivement, on peut peut-être le voir comme en termes de mauvais caractère.
Enfin, je dis mauvais caractère. Oui, non, mais un caractère.
Non, mais comprends.
Oui, vous dites mauvais caractère. C'est pas ce que dit Tocqueville. À caractère affirmé.
Voilà, c'est ça. Une certaine difficulté à faire quelques compromis.
Voilà,
ça,
voilà.
En tout cas, ça me parle.
On refera une émission sur la chimie amoureuse. Mais pour l'instant, musique. Et puis après, on vous retrouve, Stéphanie. In your dreams, in your bed, and everyone, and in your head, on the wall, it ain't white, and every letter that you write, in the way people talk, in the shape of stones and rocks. He's your hero, he's your God. He listens to this song. And I
Oui, donc ça c'était Cast Choice, c'est Song for Catherine, et donc c'est pareil, c'est Sarah Bettens, la chanteuse, et elle aussi, comme Beth Ditto, elle est homo et ouvertement, et ça fait beaucoup de bien dans la communauté parce qu'elle est, c'est un rôle très positif. Hein, c'est pareil, une personne, ça fait depuis les années 90 que ce groupe existe, et donc je recommande aussi très bien.
Autre question que vous avez posée donc pour ce micro trottoir, question sur l'homoparentalité. Est-ce que donc les lesbiennes peuvent élever des enfants? Réponse.
Moi, ça me choque pas particulièrement. Que des homos puissent avoir des enfants. Enfin, ça dépend des gens plutôt que de leur orientation sexuelle.
C'est pas moi qui donne le droit ou qui enlève le droit à des homosexuels d'avoir des enfants. C'est tout simplement que la nature fait que. Donc peut-être que les homosexuels doivent aussi savoir se remettre en cause et réfléchir sur cette question.
J'ai un peu peur qu'un tout petit qui est absolument informe et qui naîtrait dans un milieu où l'autre sexe c'est l'horreur, c'est Satan, c'est le danger, n'est pas lui le choix.
Pour l'évolution d'un gamin, c'est quand même bien d'avoir, du moins de temps en temps, le père qui se manifeste, quoi.
Si on a deux mères, comment ça passe, le dit, quelles sont les représentations du garçon, s'il y a deux mères ou l'inverse, s'il y a deux pères.
Mais le principal pour un enfant,
c'est d'être équilibré.
Voilà.
Vaut mieux qu'il soit avec deux femmes qui s'aiment qu'un homme et une femme qui se déchirent.
On peut très bien apporter un pool de stabilité à un enfant, qu'on soit un couple homoparental, une famille recomposée ou une famille monoparentale.
Je le conçois, mais c'est toujours un petit peu difficile à avaler, dans le sens où je me place juste à la place de l'enfant.
Peut-être que quand il va aller à l'école, il va peut-être se rendre compte qu'il y a un souci pour lui, mais si les parents lui expliquent comment ça se passe, enfin, ce qu'il en est, il n'y a pas de... Non, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Non,
et moi, j'ai vu, les enfants n'en souffraient pas. J'ai des exemples concrets. Donc, ils sont capables d'aider des enfants, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas avoir des enfants.
Si on veut aller jusqu'au bout de la reconnaissance de l'homosexualité, il faut inscrire cette logique-là dans la reconnaissance de l'homoparentalité, notamment avec un accès pour la PMA pour les femmes lesbiennes et également la possibilité d'adoption. Parce que là, il y a une hypocrisie extraordinaire en France. On tolère que les femmes lesbiennes aillent se faire inséminer en Angleterre, en Belgique, en Espagne, mais on leur refuse ce droit-là en France.
Moi, je pense que l'égalité des droits devrait être reconnue dans ce pays, il serait temps. Elle l'est dans d'autres pays européens. Aux États-Unis, et je pense que, il serait temps que les droits soient équivalents, les droits de tout le monde, à vivre comme on le souhaite et avec qui on veut.
Hop, On parlait en antenne. Alors, il nous reste 2 minutes, Stéphanie Hart, pour réagir. Je trouve qu'ils sont quand même plutôt ouverts, les gens, même si ça bloque un peu plus, effectivement,
ça
quand on
plus
parle
sur
l'homoparentalité.
Plus sur les enfants. Hein,
ouais, ça, c'est le sujet qui bloquait le plus. Hein.
Oui, oui, bien sûr.
Mais bon, pour préciser, il faut quand même dire aussi que la France, c'est pareil, n'est pas très en avance, parce qu'aux Pays-Bas, par exemple, en Suède, en Grande-Bretagne, en Espagne ou en Belgique, en Espagne, vous voyez, c'est un pays super catholique qui autorise le mariage et l'adoption, puisque donc l'adoption plénière est autorisée dans ces pays-là. Et c'est pareil pour l'assistance médicale à la procréation. Donc en France, on sait très bien que c'est compliqué, il faut être en couple hétéro pendant 2 ans ou marié, etc. Et donc les femmes lesbiennes ne peuvent pas y accéder en France, alors qu'elles le peuvent en Angleterre, au Pays de Galles, en Espagne, en Italie, en Finlande, en Suède, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal. Vous voyez, donc on n'est pas super.
Oui, maintenant, sur l'adoption, ce que vous nous disiez tout à l'heure sur la durée des unions.
Oui.
Bon, si j'étais responsable à la DAS quelque chose, je confierais plus volontiers à un couple gay qu'à un couple lesbienne,
oui,
paradoxalement.
C'est dur, c'est dur. Non, mais après, peut-être que, voilà, peut-être que c'est à cause de ça que les couples se
sont. Peut-être, oui. Voilà.
Non, mais en tout cas, ça fragilise. Surtout qu'en plus, le problème aussi, c'est que quand deux femmes font un enfant ensemble, enfin d'une manière ou d'une autre, quel que soit donc il y a plusieurs possibilités, la coparentalité, l'insémination, comme vous disiez, artisanale, entre guillemets, on le fait tout seul,
on
se débrouille tout seul avec un copain, etc. Le problème, c'est qu'ensuite, la maman biologique, évidemment, a un lien, puisque la filiation se fait automatiquement quand on est mère, ouais, mais quand on est la compagne, on n'a aucun droit. Et donc, je recommande d'ailleurs sur France 4 un documentaire qui s'appelle Des filles entre elles, qui vient d'être diffusé, de Jeanne Broyon, et où elle explique très bien, c'est assez autobiographique, elle explique notamment que voilà, elle est la deuxième maman et qu'elle a aucun droit sur son enfant, donc ça c'est vraiment un problème, parce qu'en cas de deuil, par exemple, de décès, je veux dire, c'est vraiment un problème.
Sauf qu'on doit pouvoir aller chez le notaire et négocier
la deuxième maman est vraiment pas protégée, donc l'enfant non plus, quoi, parce que
c'est un combat
à mener, ouais,
et qui est probablement plus intéressant que le combat, enfin, mon sens du combat du mariage, qui est bon.
C'est autre chose, oui.
C'est autre chose.
C'est plus conventionnel, le mariage. Mais bon, après, chacun doit être libre de.
Bon, voilà. Pourquoi vous avez terminé pour aujourd'hui, les 9h30, et puis les techniciens, là, derrière la vitre, nous disent qu'il faut vraiment absolument arrêter. On va le faire. Merci, Stéphanie Hart, d'être venue ce matin. Donc, Les lesbiennes, c'est le titre de ce livre que vous avez fait paraître il y a à peu près 5 ans. Donc,
aux éditions
Cavalier Bleu, mais il est réédité, réaugmenté, etc.
Corrigé.
Je voulais vous demander qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 5 ans, mais bon. Ça sera pour une autre fois, Stéphanie.
Voilà.
Voilà, merci Bernard d'être resté avec nous jusqu'à... Voilà. C'était Alex Barthélémy qui était à la réalisation d'émission, associé de... on l'a pas, mais on nous le dira tout à l'heure. Voilà, on se retrouve demain matin à partir de 8h. Très bonne journée à tous.
Extraordinaire qui s'appelle les manches et les pierres.